donc favoriser le type de sol et la culture par la suite avec simplement une plantation de haies champêtres.
Alors ça c'est bien, on part de la terre, on part du sol, ça c'est un premier rôle des arbres, mais il y en a d'autres je pense. Il y a celui de la biodiversité j'imagine.
Exactement, donc les arbres, surtout du coup les très vieux arbres sur les arbres remarquables sont des gros accueils de biodiversité. Dans une haie en plus on a les différentes strates qui font qu'on va avoir différents insectes, différents oiseaux, donc les différents étages de la haie. Mais c'est vraiment voilà, accueil biodiversité, faune mais aussi flore. Donc c'est vraiment quelque chose qui marque nos paysages où on sait ben, qu'ici on est dans les Hautes-Pyrénées parce qu'on a telle et telle essence alors que ben, côté Méditerranée on n'aura pas les mêmes et ainsi de suite. Il y a aussi des rôles justement sur la qualité de l'eau, donc éviter que les coulées de boue arrivent dans l'eau mais aussi les épurer, faire qu'elles soient à l'ombre et du coup qu'elles deviennent en fait plus une eau.
Il y a moins d'évaporation.
Il y a moins d'évaporation mais aussi ça favorise l'eau potable parce que plus une eau est chaude, moins il y a de l'oxygène. Donc du coup ça joue aussi pour les animaux mais également pour nous parce que ben, l'eau potable c'est quand même essentiel pour les humains.
Alors vous avez remarqué, alors, en général vous plantez au bord des champs parce que le problème c'est quoi ? C'est ici comme ailleurs, alors on est quand même dans un secteur assez favorisé hein, par rapport aux grandes plaines céréalières, mais ici aussi il y a eu du remembrement, il y a eu de l'arrachage de haies, il y a eu ces choses-là, il y a eu ce phénomène ?
Oui, ici aussi, donc on a quand même, alors pas partout, donc on a encore des toutes petites parcelles très boisées, mais on a aussi des assez grandes parcelles avec plus un linéaire de haies où c'est intéressant justement d'en remettre. Donc on va travailler avec les agriculteurs pour replanter avec eux et choisir l'endroit où la haie ne va pas leur gêner par la suite, va leur demander le moins de gestion possible et que bah, ils puissent le valoriser aussi dans leur exploitation. Parce qu'effectivement on va replanter en bordure mais on peut aussi replanter intra-parcellaire, donc dans la haie, dans la parcelle pardon, pour bah, refaire de l'ombrage pour les élèves, enfin quand c'est un élevage, là on l'a fait avec des ports noirs de Bigorre où on a replanté intra-champ. Donc voilà, et par contre pour les particuliers ça se fait beaucoup pour bloquer la vue et aussi être brise-vent.
D'accord, et pour les agriculteurs ici le vent c'est pas vraiment un souci?
Alors ça le fait un tout petit peu, mais c'est pas l'impact le majoritaire, c'est plutôt, alors il y en a beaucoup qui replantent parce qu'ils veulent replanter, refaire leur territoire, refaire beau, faire beaucoup d'ombrage parce qu'on va travailler beaucoup plus avec les éleveurs, mais par contre si on a quand même cette petite notion de brise-vent autour des cultures, parce que bah, une haie peut quand même protéger jusqu'à 20 fois sa hauteur, donc c'est quand même important d'en replanter quand on veut limiter le vent qui peut être fort quand même.
Et sinon sur les cultures, on a vu il y a des bénéfices de ces arbres sur les cultures. On a tendance à croire que bon, les arbres avec leurs racines vont aller empiéter sur le champ et donc vont aller prendre des nutriments de la terre, mais je crois que c'est pas tout à fait la bonne vision des choses.
Exactement. Donc on a tendance à penser que ben l'arbre va être le voleur d'eau, va piquer les nutriments, alors que non, l'arbre va plutôt servir d'ascenseur. Donc en fait, ses racines vont plonger en profondeur, vont chercher l'eau et les nutriments qui sont au fond, et vont les remonter pour les rendre disponibles aux cultures. Après, comme c'est, par exemple, une haie va protéger jusqu'à 20 fois sa hauteur, bah, du coup, ça protège du vent. Donc la culture aura plus d'évapotranspiration en surface, donc du coup plus d'humidité pour elle. Donc en cas de sécheresse, c'est quand même intéressant d'avoir de l'humidité en surface. Et l'arbre, pareil, il va produire ce qu'on appelle de la litière, donc ses feuilles vont tomber, ses racines vont se dégrader, et du coup ça va enrichir le sol, et du coup améliorer sa qualité, qui est quand même un plus pour nos cultures à côté. Et on l'a dit, c'est un support de biodiversité, donc niveau auxiliaire de culture, c'est très important d'en avoir, parce que du coup, ça apporte ces auxiliaires de culture.
Alors les auxiliaires culture, ça va être ces petites bêtes ou champignons qui vont aller faire concurrence aux ravageurs. C'est-à-dire on va créer un milieu qui va être équilibré. On ne va pas avoir un ravageur qui ne va pas prendre toute la place, mais il va avoir quelques ennemis qui vont lui faire concurrence à la place des pesticides.
Exactement, c'est ça. Donc on peut avoir des insectes, mais aussi des rapaces qui le font.
D'accord. Ah oui, les rapaces qui vont être utiles contre les rongeurs, ce genre de choses, les campagnols et ce genre de choses. Ce sont plutôt des agriculteurs bio, pas bio. Il y a beaucoup de bio dans le coin où c'est pas lié à ça. C'est vraiment, on peut dire que c'est quelque chose on va avoir des agriculteurs lambda qui vont être sensibles à votre message.
Exactement. En fait, on n'a pas le réflexe vraiment de leur demander. Donc je pourrais pas vraiment, oui, le faire remonter. Je sais qu'il y a des maraîchers qui plantent avec nous, qui sont des maraîchers en sol vivant, qui sont bio. Donc eux, on le sait parce qu'on travaille avec eux. Mais c'est vrai que la plupart sont des éleveurs lambda ou des céréaliers lambda. On leur demande pas parce que pour nous, c'est pas forcément un critère. C'est plutôt accompagner vraiment toute personne. Et voilà, les céréaliers plantent aussi bien que des éleveurs. Un peu moins, mais quand même, ils plantent. Donc oui, il n'y a pas forcément de bio ou de pas bio.
Et vous arrivez à les convaincre plus par le côté paysager ou par le côté biodiversité? Est-ce que le côté paysager va finalement toucher plus ou pas?
Ça dépend.
Ouais.
Là, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées plutôt face à l'érosion, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus.
Érosion des sols.
Oui, face à l'érosion des sols, parce que c'est quelque chose qu'on a de plus en plus sur le territoire et qu'on essaye aussi de. Là, on a plusieurs programmes qui essayent aussi de sensibiliser à ça. Donc, on appuie dessus, donc on a pas mal de demandes. Mais sinon, non, il n'y a pas forcément de critères. Il y en a beaucoup qui se disent, oui, ça va me ramener les oiseaux. C'est pas forcément très marqué.
Alors, depuis quand vous faites ça? Quels sont les retours? Les retours sont bons? Ça fait longtemps que vous êtes lancé dans cette dynamique?
Alors, au sein de la Maison de la Nature, c'est depuis 2008-2009 qu'on a ce pôle arbre et paysage 65. On a réussi à accompagner plus de 95 000 plants, donc 95 000 mètres de haies, de plantés sur le territoire des Hautes-Pyrénées, plus quelques projets d'agroforesterie. Donc agroforesterie, c'est vraiment les alignements d'arbres intraparcellaires. Donc ça, on en fait un ou deux par an en fonction des demandes. Mais du coup, c'est quelque chose qui marche, qui est croissant.
Alors agroforesterie, on rappelle rapidement quand même.
C'est agroforesterie, c'est les systèmes, donc c'est ce qu'on appelle le système agroforestier. Donc c'est relier la culture avec l'arbre au sein d'une même parcelle. Donc ça peut être des alignements d'arbres intraparcellaires, donc au même dans le champ, ou des haies ou des choses comme ça.
Donc on va planter quel type d'arbre et quel type de culture on va faire à côté dans ces donc ça mélange, c'est une espèce de forêt-champ, quoi.
Oui, c'est ça. Alors du coup, il y a des densités où on sait qu'il faut pas mettre trop d'arbres, qui voilà. Niveau culture, ça dépend. Ça peut être très bien de l'élevage comme des céréales. Ça dépend de l'objectif derrière. En fonction de si c'est de l'élevage ou des céréales, on va pas forcément mettre les mêmes arbres. Par exemple, parcours volaille, on appelle ça un système agroforestier si on met des arbres dedans. Et on va mettre des noyers, des pommiers, des poiriers pour que les poules aient de l'ombre pour se. Enfin, oui, et de l'ombre pour se protéger, mais aussi et des fruits pour jouer par la suite parce que c'est des animaux très joueurs.
Et alors, tu m'as dit, vous travaillez avec des essences locales. Et tu m'as dit aussi, on va planter des arbres qui vont résister au changement climatique. Les deux me semblent un petit peu antinomiques, mais tu vas m'expliquer si c'est antinomique ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment des arbres d'essence locale qui vont s'adapter au changement climatique alors que le paysage va changer, enfin les conditions en tout cas du paysage? Comment ça se passe?
Alors, en fait, il y a les deux points de vue. Donc, il y a le point de vue où il faut justement s'adapter et ramener beaucoup d'espèces non locales. Mais par contre, il y a beaucoup de risques en faisant ça parce qu'on lève les barrières géographiques. Et du coup, on peut ramener de la renouée du Japon, de l'érable Nekundo, voilà, des espèces qu'on n'aime pas forcément. Et par contre, il y a l'autre point de vue qui est avoir des espèces locales et champêtres. Donc, c'est des espèces qui s'adaptent. Parce que c'est une force du végétal, l'acclimatation. Donc, il s'adapte génétiquement à ce qui se passe. Et pour ça, nous, on va répondre à une marque qui s'appelle la marque végétale locale, qui découpe la carte de la France en 11 régions d'origine. Et du coup, nous, on est dans le sud-ouest et dans les Pyrénées. Donc, on va récolter des graines dans le milieu naturel, qu'on envoie à des pépiniéristes partenaires qui vont nous refournir des plants par la suite.
Très bien. On va faire une petite pause musicale, si tu veux bien. Et puis, on se retrouve après.
Sauvage ou pas.
Alors nous voilà de retour avec Anaïs Coutier dans cette maison de la nature et de l'environnement qui est à la limite donc des Hautes-Pyrénées, du Gers, de la Haute-Garonne pour cette nouvelle émission en Gascogne. Donc sur ce pôle arbres et paysages qui replante des haies pour amener de la biodiversité, pour éviter l'érosion des sols, pour aider les agriculteurs, amener de l'ombre dans les élevages, enfin voilà, tout un tas de choses très positives pour l'environnement et pour les hommes. C'est ça qui est pas mal avec cette initiative, c'est que c'est de la biodiversité au service de l'humain et ça évite de braquer les gens contre l'écologie qu'ils voient comme quelque chose de punitif. Là c'est quelque chose que vous amenez en positif et c'est super. Alors comment vous accompagnez, alors on l'a vu, hein, vous travaillez à la fois avec les agriculteurs qui je pense sont ceux qui vous font planter le plus d'arbres, vous payez les arbres, vous leur offrez?
Non, on va travailler sur grâce à plusieurs programmes de plantation. Donc on a le programme Plan Arbres et Carbone Vivant de la région Occitanie et en complément le programme de notre agence de l'eau à Dour-Garonne qui sont en fait deux financeurs qui permettent de réduire le reste à charge pour les planteurs. Donc il reste quand même un reste à charge parce que ça ne finance pas à 100%, mais ça réduit le coût fortement. Et par-dessus, on a plusieurs autres financeurs qui se rajoutent, comme par exemple la Fédération départementale des chasseurs ou encore le Fonds pour l'arbre qui sont des financeurs privés nationaux ou une fondation qui est présente ici localement à Lourdes.
Alors j'imagine que vous les aidez à se dépatouiller de tout ça pour aller chercher les financements, mais l'accompagnement s'arrête là. En quoi consiste votre accompagnement, donc des particuliers, des professionnels, de tous les gens qui veulent planter des arbres autour de leur parcelle?
Alors,
ou dedans?
Oui, alors on a un accompagnement très poussé, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller voir où est-ce que la personne souhaite planter et on va jusqu'à l'achat du plan, du paillage et des protections. Par contre, tout ce qui est préparation du sol et plantation reste à la charge du planteur. Mais voilà, on l'accompagne avec vraiment comment planter, quel plan. On lui achète même le plan, donc c'est vraiment accompagné de A à Z.
C'est-à-dire que vous allez lui donner des conseils de plantation. Est-ce que vous allez planter des arbres fruitiers comme des pruniers, des choses comme ça en bord de... Tu l'as dit sur les poules tout à l'heure. Ça a un intérêt au-delà parce qu'il y a les fleurs, je suppose, pour les abeilles, ce genre de truc avec les fruitiers.
Exactement. Les fruitiers, c'est des espèces très mellifères et polliniques, donc c'est intéressant. Par contre, nous, on va planter que des espèces sauvages, donc elles ne sont pas greffées. Donc par exemple, les pommes, ce sera les toutes petites rondes. Les poires, c'est pareil, du coup, elles ne seront pas en forme de poire, elles seront petites et rondes. Mais c'est vraiment des espèces qu'on va planter. Et au sein de la Maison de la Nature, on forme aussi les gens au greffage. Et du coup, bah, ça peut être de super porte-greffes. Et par la suite, la personne, si elle souhaite avoir un arbre qui est aussi comestible pour elle, enfin, pour elle et qui est bon, peut le greffer par la suite. Voilà, ça, il n'y a pas de souci.
Ok, super. Et cet accompagnement, il y a aussi un démarchage, il y a une sensibilisation, j'imagine.
Oui. Oui, effectivement, on va travailler niveau sensibilisation avec tout public. On peut très bien commencer avec de la maternelle jusqu'aux adultes. Donc, on va faire des animations scolaires, des animations dans les lycées agricoles, on fait des stands. On fait vraiment, oui, on sensibilise au maximum sur l'impact d'une haie et les rôles. Mais par contre, ce n'est pas vraiment du démarchage parce que ce n'est pas pour que les gens, enfin, c'est pas pour que les gens passent forcément par nous, mais c'est pour qu'ils replantent sur le territoire et que, ben, on ait des plantations qui marchent et qui sont réussies.
Alors c'est plutôt, tu l'as dit, vous faites de la sensibilisation dans les lycées agricoles. Les agriculteurs qui vont replanter, c'est plutôt des jeunes qui s'installent ou c'est plutôt des vieux ou des un peu moins vieux en fin de carrière qui ont un peu tout réalisé, qui veulent apporter une touche supplémentaire ou qui se rendent compte un petit peu de l'impact négatif qu'ils ont eu et qui essaient de se rattraper en fin de vie.
On a les jeunes qui s'installent. Ouais. Et les personnes, oui, justement, qui sont en train d'arrêter leur exploitation, qui se disent « bon, bah, maintenant, je vais replanter. Je me suis rendu compte qu'ici, en fait, ça ne m'aurait pas gêné d'avoir une haie, donc je la mets. » Donc, on a vraiment les deux côtés.
Et les jeunes, ils sont sensibles?
Les jeunes qui s'installent, surtout les éleveurs, vont penser justement au bien-être de leurs animaux et du coup, remettre de l'ombre.
Oui, en plus, bien-être, ça veut dire aussi productivité, hein, quelque part. Hein. Oui. Une poule qui n'a pas trop chaud et qui peut s'amuser, elle va avoir une meilleure chair ou plus d'œufs.
Oui, oui, oui.
Oui, surtout qu'en plus, ici, vous êtes sur un territoire particulier, puisque vous avez cette appellation du Port Noir de Bigorre, qui est une espèce de... Je pense qu'en France, il n'y a pas un label pour les porcs qui soit aussi respectueux de l'animal, de ses rythmes naturels, du fait qu'il doit être dehors, que les semences, que les céréales doivent venir de la ferme. Enfin, c'est vraiment un cahier des charges. Quand vous achetez, il vaut assez cher, ce porc-là, mais on est vraiment sûr que vraiment l'animal, on est à l'inverse, opposé du port de batterie. Donc là, vraiment, il y a un intérêt. Là, ça va être, c'est quoi que vous plantez pour les porcs? C'est du chêne.
Exactement. C'est du coup nos plus gros planteurs, parce que dans leur cahier des charges, il est demandé d'avoir au moins deux haies, une côte. Alors soit un bois, s'il y a le bois sur la parcelle, c'est bon. Sinon, c'est une haie côté ouest et au sud. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est demandé parce que c'est un cochon marcheur forestier. Donc, on va leur préconiser, oui, du chêne, du châtaignier, du néflier et du noisetier. Donc, c'est quand même des essences que le cochon adore manger et ça lui... C'est...
Après, il ne mange pas l'arbre, il mange les fruits.
Oui, il mange les fruits. Mais il casse un peu les clôtures pour aller manger les fruits au pied. Des fois, il le fait. Mais au moins, ça lui permet de circuler au sein de son champ et du coup de marcher, et c'est naturellement ce qu'il doit faire. Donc niveau bien-être, c'est vraiment une espèce qui est top.
Super. Alors il s'agit de planter, c'est bien d'aider les gens à planter, mais après est-ce que vous intervenez dans la gestion de ces... comment ça se passe?
Alors du coup, dans notre accompagnement de plantation, on va suivre les plantations sur au moins 3 ans. Donc les premières années sont un peu les plus essentielles au niveau de la gestion. Donc,
surtout de l'arrosage.
Alors, pas ici. Ah. Ici, on est quand même dans un endroit où il pleut quand même encore beaucoup. On va juste préconiser un bon coup d'arrosage en cas de sécheresse. Mais surtout pas régulièrement, sinon ils ne vont pas faire leurs racines. Mais par contre, c'est surtout taille de formation si on veut un bois d'œuvre ou bois de chauffage et du recépage si on veut des jolis petits
arbres. Du recépage.
Alors, c'est quand on va couper à ras du sol. Donc, ça fait un peu mal au cœur parce qu'on se dit, oui, mon arbre, il a poussé et je le coupe à ras du sol. Mais ça va faire un vrai port arbustif bien touffu et beaucoup plus dense pour la haie.
C'est-à-dire qu'au lieu d'un tronc, il va y avoir 3-4 troncs qui vont partir et l'arbre va pousser en CP.
C'est ça, exactement. Et du coup, ça, c'est sur les premières années qu'on va accompagner là-dessus. Et après, on essaye depuis quelques années de développer ce qu'on appelle la gestion durable des haies. Donc, c'est d'accompagner les gens via des plans de gestion. Donc, en fait, ça peut être très bien une collectivité, un agriculteur ou un particulier, peu importe, qui veut gérer ses haies. Donc, il peut nous faire intervenir pour qu'on vienne voir au pied de haie avec lui comment celle-là, elle doit être gérée, comment entretenir. l'entretenir, enfin comment l'entretenir. Est-ce qu'il faut vraiment la tailler ou est-ce qu'il faut faire des tailles de régénération? Donc quand les arbres deviennent matures, est-ce qu'il faut les prélever pour refaire de la lumière et laisser de la place pour le reste?
Et alors, c'est quoi en général? C'est très divers dans les solutions. C'est-à-dire, il y a des moments, c'est pas grave de couper un arbre dans une haie, c'est pas un crime.
Exactement, c'est pas du tout un crime, il faut juste pas forcément couper toute la haie, mais prélever à certains endroits comme on ferait en milieu forestier. Et là, on est vraiment là pour accompagner cette notion-là via aussi la sensibilisation d'outils, on va dire, vertueux de la haie, qui seraient différents des outils qu'on utilise actuellement, parce qu'actuellement, on a tendance à utiliser les broyeurs. Qui marchent très bien mais qui vont blesser nos arbres en les broyant. Alors qu'à
c'est-à-dire un truc derrière le tracteur qui va tailler. Et ça, c'est pas bon parce que ça va faire des entrées pour les champignons parce que les bois vont être cassés n'importe comment et pas naturellement. Alors que comment on fait dans ces cas-là sur des grosses exploitations? Comment on coupe si c'est pas avec un broyeur?
Alors en fait, il y a trois outils qu'on peut mettre sur les tracteurs. Donc il y a ce qu'on appelle l'épareuse qui est le broyeur. Ouais. Cette épareuse, justement...
C'est ce qui nettoie les bords des routes en général.
Exactement. Et en fait, elle peut être très bien utilisée si on ne rentre pas dans la haie. Donc si on coupe des jeunes tiges qui sont vertes. Sauf que du coup, ça veut dire un pas de temps très court pour le faire et dans une exploitation...
Et des passages réguliers.
Et des passages réguliers tous les ans. Et en fait, on n'a pas forcément le temps de faire ça. Après, on a complètement l'opposé qui est le lamier. Le lamier, c'est des grosses scies qu'on met sur les tracteurs. Et là, c'est pour les très grosses branches. Donc le souci, c'est que ça fait du vent, donc toutes les petites branches vont reculer, donc on va pas les tailler. Donc on va rentrer et on va couper plus gros que ce qu'on voulait. Et c'est dangereux parce que une grosse branche qui tombe sur le tracteur, ça peut être dangereux pour la personne qui conduit. Et après, vous avez le juste milieu qui s'appelle le sécateur hydraulique, où là, c'est comme un gros taille-haie, mais sur bras de tracteur. Ça a l'avantage de pouvoir couper plusieurs diamètres de haie, des coupes droites et franches. L'autre souci qu'il a, c'est que du coup, les branches tombent au sol et après, on se dit qu'est-ce qu'on en fait? Et justement, c'est à ce moment-là qu'on peut les broyer et faire du bois de litière, du broyat et le valoriser autrement.
Ok, super. On rappelle, vous ici, votre rayon d'action, c'est vraiment les Hautes-Pyrénées. Vous n'allez même pas, il y a aussi une autre association sur le Gers. Comment ça se passe pour les gens qui habitent ailleurs en France? Il y a une structure arbre et paysage dans chaque département de France?
Alors non, ça c'est un choix de la région Occitanie. En fait, du coup, en région Occitanie, on a un arbre et paysage. On ne s'appelle pas tous comme ça, mais un arbre et paysage dans chaque département. Ça a été vraiment une volonté de la région de dynamiser ce système d'association. On est tous indépendants, mais par contre, on va tous travailler en réseau via un réseau qui s'appelle le réseau Haies Occitanie, qui est du coup l'échelle régionale. Et au-delà, on a réseau Haies France, qui est l'échelle nationale, qui, lui, va essayer justement de déployer des structures un peu comme ça partout dans tous les départements de France ou au moins au niveau régional. Donc, il y a beaucoup de réseaux haies régionales qui ont été créés. Il y en a en Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. Voilà, il y en a vraiment un peu partout maintenant. Et ils ont tous cette mission-là de sensibiliser à l'arbre et notamment via des actions de plantation de haies champêtres sur la France entière.
Et il peut y avoir aussi des aides dans certains endroits?
C'est ça. Alors, moi, je suis originaire de Franche-Comté et d'Alsace, donc je les connais un peu mieux là-bas. Mais effectivement, Bretagne, il y a des aides. Grand Est, il y a la région qui finance aussi. Franche-Comté, il y a des aides financières de la région. Donc, il existe vraiment des aides à la replantation. Et actuellement, on a aussi des aides à la gestion durable via le pacte en faveur de la haie. Donc, il y a aussi des...
Là, c'est l'État ?
Ouais, c'est ça. Il y a aussi des aides nationales qui...
Il faut aller à la préfecture pour ça ?
Alors, c'est les arbres et paysages qui le portent. Alors, nous, dans le 65, on ne l'a pas fait parce qu'on n'est pas encore assez développé sur la gestion. Mais il y a beaucoup de structures qui vont le porter et qui vont accompagner justement à cette gestion.
Okay. Alors, on a parlé beaucoup de plantations, mais est-ce que vous apportez, ce sera la question de la fin, est-ce que vous, les gens qui ont déjà des haies, est-ce que vous allez les aider dans leur gestion de haies qui existent? Les gens qui se posent des questions de comment gérer, des gens qui achètent, ça se retrouve beaucoup, hein, des gens qui vont acheter des propriétés, d'anciennes propriétés, avec des terres autour et qui se retrouvent face à ça. Vous allez leur donner des conseils également?
Alors, actuellement, on ne va pas forcément chez tout le monde au pied de la haie, mais par contre, on organise des journées terrain ou des journées de formation en commun qui sont pour la plupart gratuites. Oui, là, elles sont toutes gratuites, celles qu'on a fait cette année, pour que justement les gens puissent venir voir ce qu'on peut faire directement au pied d'une haie. Et plutôt que disperser ces actions de sensibilisation, on fait quelque chose de commun pour toutes les personnes qui sont intéressées par la gestion.
Ok. Bah écoute Anaïs, merci beaucoup. On rappelle, il y a un site pour le national, c'est quoi?
Alors, je pense que c'est réseauhaies.fr
D'accord.
au niveau national. Et pour la Maison de la Nature, c'est le site de la Maison de la Nature et vous avez une petite page arbre-paysage où vous avez toutes les infos.
Maison de la Nature et de l'Environnement, MNE des Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup Anaïs. Au plaisir de te revoir dans l'Ours et la Carotte. Au revoir.
Au revoir.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.
Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you
HDR.
Keep it going full steam. Sweet to be sour, too nice to be me. When on the top guy style, I'm not too keen. Time to change the world.
HDR 99.1.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1.
Vous écoutez HTR 99.1.
Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: écroule-toi, donne-moi du nougat. Écroule-toi, donne-moi du nougat.
HTR,
le mix de toutes les cultures,
99.1. Sur le 99.1. Vous écoutez HTR 99.1. HTR 99.1. Le mix HTR. C'est sur le
99.1.
Le mix.
Moi, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup répéter.
Et puis, petit à petit, ça s'est amplifié. En effet, qu'elle répétait plusieurs fois la même chose.
J'en ai parlé à mon médecin parce que j'oubliais tout, qui m'a dit que c'était un début d'Alzheimer.
Troubles de la mémoire, difficultés de concentration, vous vous interrogez pour vous-même ou pour un proche?
France Alzheimer et maladies apparentées informe, accompagne et soutient au quotidien les personnes impactées par la maladie ainsi que leurs proches. Plus d'infos sur le site francealzheimer.org.
Kumikata Station, c'est votre émission reggae, un mardi sur deux de 18h à 20h.
Sur la radio HDR.
Deux heures de reggae sur vinyle, des infos du mouvement Sound System, des invités.
C'est Kumikata Station.
Animé par Liviti, un mardi sur deux, sur le 99.fm. En live sur le Facebook de la radio HDR, page Facebook Kumikata Station. Alors n'oubliez pas, un mardi sur deux, c'est Kumikata Station, de 18h à 20h, sur Mix des Cultures.
Kumikata Station.
Qu'y a-t-il pour votre service?
Ici Londres, votre émission un mercredi sur deux de 17h à 18h. Venez découvrir les portraits des associations, leur histoire, leur mission, leurs projets et leurs actus. Ici Londres, un mercredi sur deux.
À quelle heure dites-vous?
De 17h à 18h. C'est sur le 99.1 FM HDR.
Electro House Session sur Radio HDR. Le vendredi à 23h. On rediff le lundi à 2h.
DJ
Aratek.